Vous êtes sur RTL.
Pharma.fr.
En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, épisode 20. Cyprien Cini.
C'est dingue, c'est déjà le numéro 20. Cyprien Cini, Brice Dugénie, Céline Landreau, Laurent Tessier, Greg Aranoni aux manettes ce soir. Pour défaire le monde avec rigueur et bonne humeur, vous le savez, on vous accompagne.
Je sais pas, j'espère qu'ils savaient parce que là, ils n'auront pas compris.
Avec rigueur et bonne humeur.
Avec rigueur et bonne humeur, donc comme vous le savez. Vous réagissez en temps réel sur la page Facebook, on défait le monde, sur le compte Twitter. On a déjà Flo, Tom, Ingrid qui sont connectés sur le compte Twitter de On défait le monde. Je le disais, c'est le numéro 20, c'est parti, c'est vendredi. Voici le sommaire avec Cyprien.
La voiture dans le viseur des municipales partout en France. Dans On défait le monde ce soir, vous saurez tout sur le monde merveilleux des embouteillages. Les papes s'écharpent sur le célibat des prêtres. Pourquoi tant de discipline ? Dans On défait le monde, on n'oublie pas les fondamentaux. Avec le mauvais karma du loser de la semaine de Céline Landreau.
Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, tout va bien sur le terrain. Mais en dehors, rien ne va plus.
Dans votre billet retour, Brice Dugénie, vous êtes tourné vers Haïti, ravagé par un tremblement de terre le 12 janvier 2010.
Oui, 10 ans après le séisme, les erreurs se sont accumulées. Haïti aujourd'hui n'est pas beaucoup mieux protégé.
Au menu également, 3 infos qui vous permettront de briller au dîner. Une belle histoire qui vous réchauffera le cœur dans l'instant trop mignon. Et le palmarès de vos appels au 3210 dans le Prodomètre ce soir. Un fabuleux cadeau, surtout si vous êtes fan de Johnny. Ce sera vers 19h40. On défait le monde, nous sommes en 2020. Et comme le dit Jean-Louis Aubert...
Défaites-le bien ce monde.
On défait le monde, épisode 20, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Je rappelle vos réactions, vos commentaires sur le compte Twitter, sur la page Facebook à disposition. Ça commence, on défait le monde évidemment, par le surf de la semaine avec Cyprien, c'est-à-dire les temps forts sonores de ces derniers jours.
Et la semaine qui a démarré sur les chapeaux de roue avec...
Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris.
Ah, Paris, Paris, Anne Hidalgo, enfin candidate. Et pendant ce temps-là, son rival, Benjamin Griveaux, il faisait quoi cette semaine ?
Donc on a découpé le cabillaud, on va l'installer dans le plat, et puis on va verser le citron dessus. Alors le citron, ça a une grande vertu, ça cuit.
Ok, bon, il cuisine un cabillaud, bon, pourquoi pas. Sinon, dans l'actualité, toujours, cette réforme des retraites. D'ailleurs, on a avancé, on a appris quelque chose grâce au président de la République, attention.
Universel ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde exactement.
Et oui, révélation, après plus de 40 jours de grève, universel en fait ça ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde. Mais alors le 31 décembre, au moment des vœux, il expliquait quoi le président ?
L'universalité. Il s'agit de faire en sorte qu'un euro de cotisation versé ouvre les mêmes droits pour tous.
Ah oui, bon à l'époque c'était universalité, c'était un peu le même quand même. Bon c'est pas très clair son histoire. Sinon, on a des nouvelles du cabillaud de Benjamin Griveaux.
Ouais. Oignon rouge, on coupe très très finement.
On a l'oignon, on a le coriandre. Ça c'est très important. C'est pareil, faut pas le hacher.
On est sur l'oignon, le coriandre, très bien, on avance, c'est bien. Alors qu'à La République En Marche, on a trouvé la phrase de la semaine pour tenter de sortir du conflit des retraites. Gérald Darmanin, Gilles Legendre et Édouard Philippe nous ont ressorti du placard, le bon vieux.
Il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre.
Comme l'a très bien dit le Premier ministre, il faut savoir terminer une grève.
Il faut savoir terminer une grève.
Faut savoir terminer une grève, et là... C'est l'instant culturel dont défait le monde. Il faut savoir terminer une grève, citation du leader communiste Maurice Thorez, prononcée le 12 juin 1936. Citation exacte, certes, mais incomplète. Et oui, car la citation en entier, c'est « Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ». Mais bon, là, forcément, ça marche beaucoup moins bien pour le gouvernement. Bref, refermons cette page culture pour prendre des nouvelles du cabillaud de Benjamin Griveaux.
Vous allez verser le jus de citron de manière très homogène. On a cette quoi ? On va mettre un petit coup.
Ah, il est passé à l'assaisonnement, on approche de la fin. Sinon, sachez-le, la semaine prochaine, c'est le Forum économique de Davos, hein, chantre du libéralisme débridé, réunion des plus grands patrons de la planète, moment importantissime pour le capitalisme mondial. Tiens, d'ailleurs, Davos, c'est la blague de la semaine, signée Muriel Pénicaud.
J'irai à Davos pour militer sur un capitalisme responsable où il y a du partage de la valeur, on lutte contre les inégalités et aussi pour l'environnement.
Excellent, Muriel Pénicaud à Davos pour un capitalisme responsable, lutter contre les inégalités pour l'environnement. Impayable, Muriel. Ah, on me signale que Benjamin Griveaux a terminé son cabillaud. Mais alors, pourquoi ce cours de cuisine, en fait ? Eh bien, parce que...
Et où ça peut permettre parfois de briser la glace et de parler de politique à la fin.
Eh oui, toucher le plus large public possible dans cette course pour Paris. Une recette du ceviche de cabillaud façon Griveaux, qui du coup en profite pour parler politique, à retrouver sur l'excellente chaîne YouTube d'Indécis. Enfin, les amis, un conseil pour la bonne tenue de cette émission. bien articuler. Oui, car quand on articule pas bien, ça peut créer des malentendus dans la transmission de l'info, comme on l'a vu à la télé belge cette semaine.
Pénurie aussi, dont on parle souvent, celle des instituteurs primaires. Il y a davantage de postes à pourvoir que d'habitude, et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout.
Les congés maladie ou quoi, j'ai pas bien compris.
Et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout.
Les grossesses, bien sûr. Vous avez compris quoi, bon. Bon, dis-moi la semaine prochaine.
Il est infernal, ce Cyprien Sini, notre surfeur. C'est tous les matins, 6h40, juste avant 8h, et le vendredi, dans On défait le monde, c'est le numéro 20.
Et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout.
On défait le monde sur RTL.
C'est la première grosse info de ce vendredi soir dans On défait le monde avec Cyprien Signé et toute son équipe. Et ça concerne, vous le disiez tout à l'heure dans le sommaire, la voiture.
Ah oui, car à 2 mois des municipales, ça y est, hein, cette semaine, les campagnes sont parties pour de bon. Et que ça soit à Lyon, Paris, Grenoble et partout en France, la voiture est au centre des débats. Embouteillage, pollution, d'ailleurs vous nous écoutez peut-être en plein dans un bouchon là. Du coup, ce soir dans On défait le monde, Laurent et Céline, vous ouvrez le dossier voiture. Et la première question qu'on s'est posée avec Laurent en préparant le sujet... C'est comment on fait pour calculer en temps réel les kilomètres de bouchons partout en France?
Alors pour démarrer, depuis plus d'un mois, Cyprien, pendant les grèves, vous avez entendu tous les jours ce type de phrase.
404 kilomètres d'embouteillage cumulés à Paris en Ile-de-France, un trafic toujours exceptionnel.
Plus de 604 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France contre 300 en moyenne à 8 heures.
Bon, le calcul de ces chiffres, du nombre de kilomètres d'embouteillage, est assez simple. Yves Carré, le porte-parole de l'Automobile Club Association, il nous livre le mode d'emploi.
Pour estimer les kilomètres d'embouteillage qu'il y a notamment en Ile-de-France, il y a des capteurs dans le sol avec un centre général qui recueille toutes ces données, qui donne une appréciation de l'embouteillage, du nombre de voitures sur la route, du nombre de kilomètres qu'elles font en X minutes, et on a une estimation effectivement de des embouteillages qui sont plus ou moins forts.
Un exemple en Ile-de-France, plus de 6000 capteurs sont répartis sur les voies rapides urbaines, les routes nationales et les routes départementales, mais j'anticipe votre prochaine question. Oui, il n'y a pas de capteurs... Sur toutes les routes, voilà, certaines ne sont pas signalées, comme la N118. On est donc dans le flou total. Il y a alors une autre alternative pour avoir une estimation des embouteillages.
Des applications aujourd'hui où ce sont les automobilistes qui signalent s'il y a un embouteillage, s'il est plus ou moins important, commencent un petit peu à donner un coup de vieux à d'autres sites comme Citadin qui, eux, fonctionnent avec des capteurs. Donc voilà, à la limite, on peut jouer avec les deux. Mais c'est vrai que la communauté qui renseigne, c'est une bonne indication.
Et les capteurs, les applications, c'est la recette du nombre de kilomètres de bouchons.
Bon, alors du coup, si vous êtes dans un embouteillage, là tout de suite, maintenant, ouvrez grand vos oreilles, puisque Céline, vous êtes un peu notre Madame Bonplan. En cas d'embouteillage, ça lui va bien, je trouve. En cas d'embouteillage, comment choisir la bonne file?
J'ai envie de vous dire, surtout Cyprien, restez où vous êtes. Parce que quand vous êtes dans un vrai embouteillage, en réalité, aucune file ne va plus vite que les autres. C'est assez contre-intuitif, mais des études très sérieuses ont été menées par des chercheurs canadiens et américains. Ils ont fait des tests, et même si par moment une file ralentit, qu'une autre accélère, en fait, sur 10 minutes, elles avancent toutes à la même vitesse. La difficulté, et c'est ça qui peut parfois nous induire en erreur, c'est que vous passez plus de temps à être doublé qu'à doubler vous-même. Vous me suivez ? À 15 km/h, un conducteur passe en fait 46 secondes à être dépassé et dépasse pendant 33 secondes seulement, toujours selon ces mêmes études. Ça peut paraître un peu confus, un peu abstrait comme ça, mais en fait, c'est assez logique. Imaginez, vous êtes dans votre voiture, vous avez la chance actuellement d'être dans la file qui avance alors que celle d'à côté est à l'arrêt par choc contre par choc. En une seconde, si tout va bien, vous pouvez par exemple doubler 3 voitures. Maintenant, mettez-vous dans l'autre situation. Vous êtes dans la file, exactement, à l'arrêt. Et bien là, en une seconde, vous ne verrez jamais 3 voitures vous doubler. C'est pour ça que ça prend plus de temps. En fait, dit autrement, se faire doubler, ça paraît toujours long. Doubler, c'est un plaisir éphémère.
Ah, elle a bien expliqué. C'est compliqué. Et alors, pourquoi on s'énerve ?
On a quand même toujours l'impression d'être sur la mauvaise file.
Ah, bah oui, toujours. Mais c'est qu'une impression. Ouais. Voilà. Donc, ne vous énervez pas si vous êtes au volant. D'ailleurs, pourquoi on s'énerve autant dans les embouteillages ? Il y a encore un sondage qui est sorti cette semaine. 3/4 des Français s'énervent au volant et beaucoup à cause des embouteillages.
Pourquoi on s'énerve ? Parce qu'on est des animaux, Cyprien, dans les bouchons. C'est sérieux.
C'est plaisir.
C'est même biologique, comme l'explique Jean-Pascal Assailly, qui est psychologue et auteur de Homo Automobilis.
C'est le rapport entre la densité de population dans un espace et l'agression. Donc ça marche aussi bien chez des singes que ou des rats, même vous mettez 10 rats dans un environnement, ça va très bien, vous en mettez 20, vous voyez arriver les problèmes d'agression. C'est exactement pareil sur la route, il y a une corrélation bien connue entre densité du trafic et conduite agressive et nerveuse. Si vous mettez 100 voitures sur un kilomètre carré ou si vous en mettez 300, on voit se multiplier les phénomènes d'agression, mais c'est très animal, c'est le fait de de réduire l'espace pour une population donnée.
Et puis il y a un autre phénomène aussi un peu particulier. La voiture aujourd'hui, elle ne fait plus de bruit, elle est confortable. C'est un peu un prolongement de la maison, un endroit où on se sent chez soi et parfois tout puissant, ce qui est d'ailleurs toléré dans nos sociétés.
Il y a un côté un peu bulle utérus, si vous voulez, qui fait que, comme c'est une seconde maison, on vit tout comme une intrusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on va devenir plus agressif qu'on l'est. La voiture, c'est un des derniers endroits où on peut se permettre d'être violent en France parce que c'est pas perçu comme une violence. Vous faites ça sur un trottoir, tout de suite, voilà, c'est une violence qui est absolument devenue inacceptable et sur laquelle nous réagissons. Mais dans la voiture, eh bien, on tolère encore beaucoup plus d'énervement parce que c'est pas perçu comme une violence par la société française.
Tolérance qui pourrait évidemment changer si la voiture prend effectivement l'avenir de moins en moins de place dans nos vies.
Ouais, on a pas fini d'en parler pendant la municipale.
Sujet passionnant en tous les cas, détaillé dans On défait le monde.
Elle va devenir experte scientifique.
Ouais,
tout compris à son explication.
Mais on savait qu'il faut faire des études pour ça.
Je sais
que ça vous échappe, mais
fascinant. Restez bien avec nous, On défait le monde, la suite dans un instant. C'est la première info pour briller au dîner. À tout de suite.
RTL Soir, On défait le monde.
En janvier
sur Peugeot.fr.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Première info pour briller au dîner en ce 17 janvier dans ce On défait le monde numéro 20. C'est avec vous, Céline, et on parle mercato.
Oui, vous savez, ces périodes de transfert qui agitent le monde du ballon rond. Mais peut-être ne savez-vous pas que le mercato a aussi permis de retrouver des enfants disparus. Oh. 6 exactement. Et cela grâce à l'AS Roma, le club italien, qui a noué un partenariat avec une association, Missing People. Depuis, à chaque arrivée d'un nouveau joueur, le club tweet aussi une annonce de recherche d'enfants disparus. La communauté des supporters, la force d'Internet fait le reste. Et depuis le mois de juillet, 6 jeunes ont pu être retrouvés grâce à cela. 3 Britanniques, 2 Kenyans et 1 Belge.
Super,
c'est un truc de fou.
Ah ouais,
c'est
un truc de fou ça.
C'est que la communauté est monstrueuse.
Mais c'est mondial en fait, les communautés de supporters de foot. Donc ouais.
Elle est belle cette info pour briller. Hein. C'est Laurent qui sera le président du jury ce soir entre les 3 qu'on va vous dévoiler d'ici 20h évidemment. Mais la première signée, Céline Landreau. Avant qu'on attaque la deuxième grosse info de ce numéro 20, je voudrais qu'on regarde un petit peu la page Facebook. On a pas mal de réactions et de commentaires concernant le sujet voiture, Laurent.
Oui, exactement. Et des messages notamment de Sylvie. Je râle presque en permanence, elle nous l'avoue. J'adorerais conduire avant, maintenant c'est une corvée. Benoît tweet tous les jours au volant contre les franciliens. Bah oui, qui ne connaissent que très vaguement les règles de circulation. Et Jacques Jacqueline nous écrit, elle pense à son mari au volant, on lui coupe sans cesse la priorité. Et pourtant, nous sommes en Bourgogne, il n'y a pas d'embouteillage sur nos routes de campagne, mais on voit de tout. Et petite dédicace pour vous, Stéphane de Lara, vous êtes le Bradley Cooper des journalistes.
Ah oui, c'est ma copine varoise, fidèle parmi les fidèles.
Ça doit faire un moment qu'elle n'a pas vu la coiffure de Bradley Cooper.
Vous réagissez, la page Facebook à disposition, On défait le monde, le compte Twitter aussi est là.
RTL Soir, On défait le monde.
Autour de Cyprien Sini dans RTL Soir, On défait le monde. Deuxième grosse info de ce vendredi, donc, qui concerne le mariage des prêtres.
Ouais, la guerre des papes fait rage, hein, en cause le célibat des prêtres. D'un côté, le pape en exercice, François, qui réfléchit à une éventuelle ouverture des prêtres au mariage. De l'autre, l'ancien pape qui a renoncé à sa charge, Benoît XVI, qui co-signe, avant de faire retirer son nom de la couverture en catastrophe, un livre paru avant-hier voulant conserver le célibat des prêtres. Alors, face à cette controverse, Brice du Génie, on s'est intéressé à la situation des prêtres. D'abord, pourquoi ils ne peuvent pas se marier ?
Alors, il faut d'abord dire que le célibat des prêtres, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une règle théologique. Aucun texte sacré ne dit que les prêtres doivent rester célibataires.
Bah alors, pourquoi ils ne se marient pas ?
Parce qu'en fait, c'est une règle disciplinaire, je vous explique, qui s'est instaurée petit à petit comme un comportement idéal. En 300 après Jésus-Christ, les hommes mariés à l'époque pouvaient devenir prêtres. On leur demandait simplement, depuis cette époque, de laisser, d'abandonner leur famille et leur sexualité, ce que très peu faisaient à l'époque. Ça, c'est au 4e siècle. Au 12e siècle, là, c'est la nouvelle règle. La nouvelle règle se durcit et on leur dit les hommes célibataires uniquement, plus d'hommes mariés pour devenir prêtres. Et c'est cette règle qui va être confirmée au fil du temps.
Et quel est l'intérêt ? D'où vient cette décision, en fait ?
Alors, la vie de famille serait un frein, en fait, à l'engagement total au service de la religion. C'est-à-dire que le don de soi à Dieu doit être entier. Il ne peut pas s'embarrasser d'une vie de famille et d'une femme. Et ce qu'ont rappelé, d'ailleurs, différents papes, Paul VI, Jean-Paul II et donc, plus récemment, Benoît XVI.
Mais il y a des exceptions, quand même, à cette règle.
Oui, les catholiques d'Orient, donc les maronites, les coptes, les chaldéens, les hommes mariés peuvent devenir prêtres, mais attention, on parle bien d'hommes déjà mariés qui veulent devenir prêtres, parce que si vous êtes célibataire, vous pouvez devenir prêtre, mais vous ne pouvez plus vous marier. C'est la même chose dans la religion orthodoxe. Et puis, il y a les prêtres catholiques qui vivent, entre guillemets, illégalement leur vie conjugale avec un homme ou une femme. C'est le cas notamment en Amérique latine ou en Afrique. Certains ont même en secret, évidemment, des enfants.
Alors, ils en pensent quoi, les catholiques ? Ils en pensent quoi ?
Alors, il y a un sondage qui a été publié l'année dernière dans la revue progressiste Témoignages chrétiens, et près de 80% des catholiques pratiquants se disent favorables au mariage des prêtres. Pour certains, cela permettrait peut-être d'endiguer ou de limiter les abus sexuels et scandales qu'on a pu voir ces dernières années au sein de l'Église, même si on n'est vraiment pas sûr que ce soit le cas. Mais ce serait surtout un moyen de lutter contre la crise des vocations, parce que beaucoup de jeunes ne veulent pas devenir prêtres parce qu'ils ne sont pas prêts à faire une croix sur une vie de famille. Donc peut-être qu'en assouplissant cette règle, ça permettrait justement de remédier à cette crise des vocations, au renouvellement des prêtres, et revenir donc à ce qui était le cas il y a un peu plus de 1000 ans, et donc pouvoir concilier la vie familiale et le sacerdoce.
Et dans les autres religions, ça se passe comment ?
Alors, dans la religion musulmane, un imam a le droit de se marier. Idem dans la religion protestante avec les pasteurs. Pareil pour les rabbins juifs. Et dans ces trois religions aussi, les femmes peuvent devenir pasteurs, imams ou rabbins.
Et j'y pense là, du coup, pour endiguer cette crise des vocations. Des femmes prêtres, c'est envisageable ou pas ?
Alors, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ouais. Le sondage dont je vous parlais d'ailleurs, la question avait été posée aux catholiques pratiquants qui sont majoritairement favorables à cette idée également. Mais ce n'est même pas pour l'instant le début d'une réflexion dans l'Église catholique et au Vatican.
Voilà le détail et le décryptage de Brice Dugénie, grand reporter du service étranger de RTL. Vous restez bien avec nous, c'est On défait le monde, c'est le numéro 20 avec Cyprien Signy jusqu'à 20h et toute son équipe.
À suivre dans On défait le monde.
Une info pour briller de Brice Dugénie, un loser de la semaine de Céline Landreau et puis un énorme cadeau, Johnny Hallyday.
On défait le monde dans RTL Soir.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Laurent Tessier est très vigilant, il est président ce soir de ces infos pour briller. Tout à l'heure, c'était le Mercato et Céline en Italie. La deuxième grosse info avec Brice concerne Michelin.
Le guide.
Alors. Oui, le guide Michelin, mais le guide avant les polémiques, hein, avant Marc Vera, avant Paul Bocuse. Vous vous dites quoi ? Étoile ou macaron ?
Étoile.
Étoile.
Moi je dis rien, je vais pas manger dans les restaurants.
Non mais d'accord, mais vous avez le droit de lire le guide.
Étoile,
hein. Vous avez le droit de lire
étoile, 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 étoile.
En fait, on entend les deux. L'appellation d'origine, Michelin l'a déposée en 1926, c'est les étoiles de bonne table. C'est précisé d'ailleurs dans les guides, les étoiles distinguent les établissements, tous styles confondus, qui proposent la meilleure qualité de cuisine. Et puis, au fil du temps, on a parlé de restaurants étoilés, de chefs étoilés. Mais selon Michelin, c'est un journaliste qui un jour, pour éviter une répétition, la hantise des journalistes.
Ah, le style.
Oui, le style.
Le style. Ouais.
Vous savez de quoi vous parlez. Eh bien, il a utilisé pour la première fois le terme de macaron comme synonyme d'étoile. Macaron, un insigne, une décoration de forme ronde. Le mot est resté, du coup, comme une alternative au mot étoile, qui est quand même plus beau. Mais l'origine, c'est étoile. Ah,
c'est d'ailleurs que vient l'expression macaron. Ouais,
pas bien. Je précise à tout le monde qu'autour de la table, s'il y en a bien un qui va dans les trois étoiles, c'est bien. C'est bien. Ça, je remets tout ça comme
pas
il faut.
Pas forcément trois étoiles.
Non, oui. Trois, rarement.
Ouais. Allez, vous réagissez contre Twitter à disposition, la page Facebook, On défait le monde,
trois
vendredi
étoiles,
soir.
RTL. Le loser de la semaine. Ah.
Chaque semaine, ses griffes acérées se referment sur celui ou celle qui n'a pas eu le bon karma. Et ce soir, Céline, c'est le président du plus grand club de foot français, président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, vous avez dans le viseur.
Le plus grand club de foot français.
On a un gros risque avec moi, là.
Le président de l'Olympique de Marseille, tout court, effectivement. Cyprien, Marseille et son club de foot au sommet, c'est vrai, cette saison.
Et Marseille, 9e rencontre de suite en championnat sans défaite.
L'OM qui prend le large pour la 2e place.
L'OM qui gagne et qui peut raisonnablement rêver cette saison d'une qualification pour la Ligue des Champions. Mais voilà, comme l'explique le présentateur de Débat Foot Marseille.
L'actualité à l'OM, du jour au lendemain, ça peut basculer.
Et cette fois, tout s'est emballé avec l'arrivée d'un homme, Paul Aldridge, chargé de vendre des joueurs marseillais au club anglais. Un recrutement qui n'a pas plu du tout à l'entraîneur André Villas-Boas.
J'ai pris la décision avec surprise. C'est vrai que cette année, l'aspect économique est au-dessus de l'aspect sportif.
Un entraîneur qui accuse son président de ne penser qu'à l'argent, colère dans la foulée de certains supporters et ambiance délétère sur la Canebière.
Cette fois, trop c'est trop, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, porte plainte après une menace de mort sur les réseaux sociaux qui mentionnait son adresse personnelle.
Et tout ça, je vous le rappelle, alors que l'OM est deuxième du championnat du jamais vu quand même depuis un petit moment. Alors l'auteur du tweet s'est depuis excusé, mais le malaise reste profond. Un président mal aimé, trop près de ses sous, reproche qui lui avait déjà été fait par le club de Trélissac après le 32e de finale de Coupe de France. L'OM n'a pas laissé sa part de recette au club de National 2. Certes, c'est autorisé, mais c'est pas vraiment l'usage. Et ça avait profondément agacé le président Fabrice Faure, ici sur la chaîne L'Équipe.
Je le dis encore une fois, comme ça, bon, c'est pas respectueux comme ça du football amateur, parce que bon, on est club de Ligue 1 ou de Ligue 2, je pense que le football amateur, ils en ont besoin. Quoi.
Pas respectueux, l'OM, le club épinglé, s'est défendu et promet un geste face à son adversaire du soir, Granville. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, devrait cette fois penser fair play et pas que financier.
On va faire à suivre. Hein.
Cyprien, ça vous choque pas l'histoire de la recette avec Trélissac?
Non, mais puisqu'ils vont reverser une partie de la recette au club amateur de la région, j'imagine. Lille fait ça, on leur dit rien. Bon, bref, non, pas de débat.
Loser de la semaine avec Céline Land. On passe au jeu, grand jeu du soir.
Et alors là, les amis,
c'est quoi donc?
Là, on va vous donner l'envie d'avoir envie de jouer avec nous, puisqu'à gagner ce soir, l'intégrale de tous les vinyles de Johnny. Alors, je peux vous dire, ça en fait un sacré paquet de vinyles, Isabelle. Hein.
Une collection de 74 numéros, c'est pas rien quand même. 1600 euros. Et pas rien, ça. 74.
Bon, alors là, pour gagner les 74 vinyles, deux possibilités. Et on innove. Le SMS, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Soit vous avez la traditionnelle question au 3210. Question que voici, que voilà. Je vous rappelle, hein, tous les vinyles de Johnny. Si vous avez écouté l'émission, vous avez la réponse.
Soyez attentifs.
En cas d'embouteillage en voiture, quel fil roule le mieux? Est-ce que c'est la file de droite? Est-ce que c'est aucune des trois files? Ça sert à rien. Ou est-ce que c'est la bande d'arrêt d'urgence? Et je rappelle qu'il est strictement interdit de prendre la bande d'arrêt d'urgence.
Attention, vous n'avez pas le droit.
Vous avez la bonne réponse, 3210 ou RTL 74 900 pour remporter l'intégrale de Johnny en vinyle. Magnifique cadeau, on tirera au sort parmi les bonnes réponses et puis on essaiera de prendre le gagnant ou la gagnante.
Il
n'y
a pas
téléphone.
De top du coup.
Non, ok.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde jusqu'à 20h, 19h43, c'est l'heure du billet retour. On revient sur une grosse actualité qui évidemment a disparu des radars. Et ce soir, Cyprien, Brice, ça concerne Haïti.
Ouais, il y a tout juste 10 ans, le 12 janvier 2010.
Une énorme secousse et une trentaine de répliques. Haïti a été frappé par un violent tremblement de terre et reste en partie coupé du monde ce soir.
Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 ravage Haïti, laissant un paysage lunaire.
Port-au-Prince n'est plus qu'un immense rideau de poussière. La fin du monde, c'est ce que croient affronter les habitants du centre de la capitale. Un cauchemar sans fin.
Des images qui ont fait le tour du monde, un bilan de plus de 200 000 morts. Très vite, à l'échelle planétaire, l'aide internationale s'est mobilisée. Et Brice Dugénie, 10 ans plus tard, maintenant que les caméras sont parties, est-ce que tout a été reconstruit?
Non, loin de là, pas même les bâtiments les plus symboliques. Le palais présidentiel, la cathédrale de Port-au-Prince et une partie de l'hôpital de la capitale donc sont toujours à terre. Alors, évidemment, c'est dû d'abord à la situation économique d'Haïti, pays le plus pauvre du continent américain et souvent classé parmi les pays les plus pauvres au monde. Mais c'est aussi la conséquence d'un travail humanitaire un peu raté. Patrick Coulombelle, il est fondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence. Il est intervenu en Haïti il y a 10 ans et pour lui, tout a été fait à l'envers dès le début.
La stratégie, c'était de travailler en essayant de faire une reconstruction avec des choses temporaires à la place de faire des choses en dur. On a fait des petites cabanes en bois qui sont absolument pas pérennes. Et ça, c'est une erreur majeure parce que on a dépensé énormément d'argent pour faire de la construction temporaire. Et quand ils ont commencé à se poser la question de faire du définitif, bah, il y avait plus d'argent.
Voilà, il n'y avait plus d'argent. Et dans ces petits abris en bois qui sont distribués, on ne loge pas autant de personnes que dans les immeubles de plusieurs étages qui s'étaient effondrés. Et cela a obligé les populations à se déplacer vers l'insalubrité.
Aujourd'hui, vous avez des secteurs où on n'a pas fait de réseau d'adduction d'eau, on n'a pas fait de réseau d'assainissement. Tous les réseaux de routes, voiries, même l'électricité, ça a été fait en dépit du bon sens, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question, de dire on va le faire et le démarrer tout de suite. Il fallait le démarrer tout de suite. Si on avait démarré ça dans les 6 mois ou même dans l'année qui suivait, on aurait fait un certain nombre de choses.
Brice, on arrive à comprendre pourquoi ça a été aussi mal géré.
Alors, il y avait beaucoup d'acteurs d'abord. Il y a eu 12 milliards d'euros sur la table. Ils ont été mal utilisés, faute de compétences technique, explique l'architecte.
Tout le monde s'improvise constructeur le lendemain d'une catastrophe parce que, bah, on imagine que c'est pas très compliqué, qu'on sait faire, qu'on peut faire.
En réalité, l'acte de construire, c'est compliqué. Juste avant le tremblement de terre, la qualité des constructions qu'on avait à Port-au-Prince était meilleure qu'elles ne sont aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal.
Voilà, 10 ans après, les constructions sont pires qu'avant. Les conséquences de ces erreurs sont donc toujours là.
Et en gros, ça veut dire que si demain il y a un nouveau séisme, c'est rebelote.
Absolument, c'est ce que disent les sismologues sur place. D'autant qu'il y a quand même une chose qui s'est améliorée en 10 ans, c'est la surveillance sismique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sismologues mesurent en temps réel toutes les vibrations et donc ils savent où sont les risques. La Terre, par exemple, en 2019, a tremblé plus de 300 fois en Haïti. Alors à chaque fois, ce sont des magnitudes entre 1 et 4, c'est pas toujours perceptible. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours une activité souterraine et qu'un gros séisme peut arriver à n'importe quel moment, c'est ce que disent les scientifiques. Alors, pour se protéger d'un séisme qui est un phénomène impossible à prévoir, il y a deux solutions, la prévention et l'éducation de la population, c'est-à-dire leur apprendre comment se comporter en cas de tremblement de terre majeur, les bons réflexes à avoir. Mais la vraie solution, c'est évidemment la construction et la construction aux normes parasismiques, c'est-à-dire des maisons qui résistent aux tremblements de terre. Mais comme on vient de le voir avec la reconstruction, ça n'a pas du tout été pris en compte, faute de moyens et faute d'organisation.
Haïti, 10 ans après, c'était le billet retour ce soir avec Brice Dugénie. Vous restez bien là, on défait le monde, la suite et la fin avec la troisième info pour briller au dîner. C'est avec Cyprien, tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
Janvier.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la troisième de ce vendredi soir. Il y avait Céline, l'Italie, le Mercato. Tout à l'heure, il y avait Brice, les étoiles, les macarons du guide Michelin. Et Cyprien, donc, pour le troisième épisode de ce soir.
Il a l'air content de lui, en tout cas.
Ah, je suis assez content.
Il y a un jour, vous n'êtes pas content.
Enfin, ouais, si ça arrive, parfois. Je suis quand même souvent content de moi.
Bon, je alors. Sûr. Au moins, c'est honnête.
Il faut être positif dans la vie. On est en pleine semaine de la mode en ce moment. La fameuse Fashion Week, comme disent les initiés.
Qui n'est pas arrivé jusqu'à vous, apparemment.
Non, jamais jusqu'à moi. J'en profite donc pour vous donner une info chiffon que vous pourrez facilement caler dans un dîner. Est-ce que vous savez quel est le vêtement le plus vendu au monde ?
Le jean.
Ouais. C'est le jean, absolument. Bah, quelle que soit la mode, on
alors,
en vend.
Pardon, mais si c'est ça l'info, non, c'est pas fini, je pense.
C'est pas possible, sinon
non,
c'est
pas ça. On en vend 2,3 milliards tous les ans. Ça fait, et c'est ça l'info, 73 jeans vendus toutes les secondes. 73 jeans. 1200 depuis que j'ai commencé à parler. Non, ça vous embouche
ouais,
encore.
Ouais, c'est
ça.
Pas mal.
Et évidemment, la marque de jeans la plus vendue, ça c'est facile, c'est Levi's. 4 milliards de jeans Levi's vendus depuis 1853. Mais le chiffre à retenir, c'est 73 jeans vendus toutes les secondes.
J'ai l'impression que Laurent hésite vraiment sur le. J'ai l'impression que Laurent hésite vraiment sur l'info.
Non, celle-là, elle est extraordinaire.
Ouais, c'est...
Et là, ça fait combien de jeans vendus depuis que vous avez commencé?
J'ai perdu le compte.
Ah ben voilà.
73 jeans toutes les secondes.
Bon, le verdict de Laurent Tessier dans un instant sur les infos pour envoyer au dîner en ce vendredi soir.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
Arrêtez. On va vous redonner des raisons d'espérer et d'y croire. Là, non. L'info qui fait chaud au cœur de Céline Dandreau, il n'y a pas d'animaux.
Non, on parle enfants et nains de jardin à la place. Je vous emmène dans le Morbihan, puisque Pontivy Journal met à la une cette semaine le voyage des nains de jardin de l'école privée de Saint-Thuriot. Alors, tout a commencé à la rentrée 2017, quand les élèves ont découvert sur la pelouse de l'établissement 3 nains de jardin, un pour chaque classe. Quelques jours plus tard, ces nains avaient disparu et ils ont fini par redonner de leurs nouvelles par carte postale, Espagne, Mexique, Sénégal, Vietnam. Jardiniers, patriotes et timides, c'est leur nom, font le tour du monde depuis maintenant un peu plus de 2 ans. L'idée, explique le directeur, elle est née alors que l'équipe pédagogique cherchait à travailler autour du voyage, de l'ouverture à l'international. Et à ce moment-là, la première jeune en service civique dans l'établissement s'appelle Amélie et l'enseignante de maternelle, Madame Poulain. Alors comme dans le film, ils imaginent le canular, c'est pas une
c'est
blague.
C'est extraordinaire.
Au départ, seuls quelques proches sont dans la boucle. Depuis, les complices sont de plus en plus nombreux à balader les nains, à faire rêver donc les gamins. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez contacter Pierre-Yves Quelec, le directeur de l'école privée Saint-Joseph de Saint-Thuriot. Il y a un numéro de téléphone, je vous le donne, 02 97 39 82 21, 02 97 39 82 21.
En gros, si vous voulez vous balader, prendre une surtaxe de bagages à l'aéroport parce que vous avez un nain dans votre valise.
Ouais, c'est pour faire plaisir à des enfants.
Mais vous oui, c'est beau.
Pas ça,
c'est
Brice.
Remarquable.
Non, histoire géniale, mais véridique, 100%.
Bah, je sais pas, moi je fais confiance à mes confrères de Pontivy Journal.
Formidable.
Non, et ce qui est génial, c'est que du coup de Madame Poulain avec Amélie.
Avec Amélie, quoi, c'est la totale, quoi.
Ils ont regardé un film, ils ont une idée.
Okay. Super instant trop mignon ce vendredi soir.
On défait le monde dans RTL.
Bonjour,
Soir.
Pascal Pro.
Le Prodomètre.
Vous avez quelque chose à dire ?
30 de 10.
Très
C'est très Sinatra maintenant la musique.
Ouais, ouais, il y a une entrée un peu. Voilà. Donc c'est le pronomètre à l'instant, évidemment, important que vous attendez tous. C'est le baromètre, mais avec du Pascal Pro dedans.
Les gens attendent tous le loser, les gens attendent tous le retour, les gens attendent tous votre
Ils attendent tous cette émission.
Ils attendent tous
et on les en remercie parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Bref, ça on le dit à la fin. Donc on va continuer avec le pronomètre. On va voir si. Autour de la table, vous êtes en phase avec nos auditeurs, avec les sujets qu'ils ont le plus et le moins fait réagir cette semaine. Et comme c'est toujours Laurent le juge arbitre, je vous laisse avec.
Retraite.
Bon, classique.
Bah, classique, oui. Ouais. Trop facile, au risque du génie. Trop facile.
Histoire de celui qui a été licencié pour avoir été pris en photo alors qu'il dormait.
Oui, ça fait partie des tops de la semaine.
Ah, bien,
on va essayer décrime, de vous faire deviner un autre sujet qui a très bien marché au 32-10.
Je vous considère comme pro-macroniste à 2000%.
C'est quoi, Jean-Yves ?
Non. La défiance dans les médias ?
Oui, exactement. Faites-vous confiance aux journalistes. Que reprochez-vous aux rédactions ? Et 50% des Français jugent que les infos diffusées à la radio sont crédibles. Donc, baromètre qui a été présenté par le quotidien La Croix.
Quel
et Thierry,
pourcentage, pardon ?
50%. 50% des infos crédibles à la radio.
Oui, mais pas dans Défait le Monde.
Pas
dans
RTL. Oui, oui.
Pas RTL tout court.
Voilà, pas RTL.
Vous allez l'entendre. Allez, Thierry a un avis sur la profession, sur les journalistes.
Je vous considère comme pro-macroniste à 2000%.
Mais je dis quand même que la réforme, c'est n'importe quoi.
À critiquer ce gouvernement.
Mais est-ce que je peux vous répondre ?
Ça ne vous plaît pas, vous interrompez la parole aux gens.
Vous pensez que quand vous appelez au standard parce que vous dites des choses qui ne sont pas agréables, vous allez être censuré ? C'est ça que vous pensez ?
Ah, ben ça m'est arrivé plus d'une fois, oui.
Moi, les bras m'en tombent.
Toute l'émission de jeudi a été consacrée à ce sujet. C'est vraiment le grand top de la semaine, et voire même le top du mois, à tous les coups. Autre top qui a très bien marché, à votre avis, cette semaine, au 32-10. Ah, plus difficile, hein. On parle de consommation.
L'alcool.
Oui, voilà. L'Occitanie, c'est la région.
Il y a eu le classement. Ça vous motive.
Non, mais j'ai eu le pensée d'un coup. Il y a eu le classement des régions où on buvait le plus.
Et l'Occitanie,
c'est ça,
voilà, c'est la région où l'on boit le plus d'alcool quotidiennement.
Ah ouais.
Et Alain, chauffeur routier, nous a appelé d'Auxerre pour pousser un coup de gueule suite au témoignage d'auditeurs qui reconnaissaient boire régulièrement.
La dame a dit que c'était un sujet léger. Je vous dis simplement que je ne trouve pas très léger de devoir aller annoncer un drame à des familles tous les week-ends, parce que tous les week-ends en France, il y a des gamins qui sont ivres morts en sortant de boîte de nuit. Il faudrait une réglementation beaucoup plus stricte. On doit choisir où on boit ou on ne boit pas si on veut conduire. C'est zéro gramme.
Oui, soyez très prudente, donc si vous écoutez, si vous êtes sur la route.
Il y a eu des flops ?
Oui, alors deux flops aujourd'hui, le guide Michelin, voilà, qui a rétrogradé donc, dans son édition 2020, le restaurant Paul Bocuse. Et mercredi, l'affaire Ségolène Royal, ça nous a absolument pas fait réagir au 32-10.
Voilà, 32-10, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h, avec Pascal Pro, bien sûr, et toute l'équipe de Laurent Tessier.
Et on a un gagnant, et c'est même une gagnante de l'intégrale des vinyles de Johnny Hallyday.
Et elle a un nom.
Et elle est avec nous, c'est Véronique qui nous appelle de Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir Véronique.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh ben bravo.
Et bonne année. Ah oui, super, merci. Hein.
Vous nous rappelez la bonne réponse ? Alors la question, c'était sur quel fil ? C'est ça, vous avez appelé au 3210 ou au SMS, vous ?
Moi, j'ai fait le 3210.
Ok, donc la question, c'était sur quel fil il faut se mettre pour lors d'un embouteillage ?
Oui, c'est très drôle, enfin aucune, quoi.
Bravo. Bon ben voilà. C'est quoi votre chanson préférée de Johnny ?
Moi, c'était Omarie. C'est le deuxième prénom de ma fille, en fait. Et je profite pour lui faire un petit coucou.
Ah bah on embrasse tous Marie.
Bah, c'est quoi son premier prénom d'ailleurs ? Parce qu'en fait, personne
Diane.
L'appelle Marie. Diane.
Diane Marie.
Oh
voilà.
Là, quelle vigilance.
Elle est alerte, cette Céline Moreau.
Pour une fois.
Elle vous écoute tous les matins avant d'aller à l'école. Tous les soirs en rentrant de l'école. C'est une grande fan. Hein.
Ah bah, tant mieux, on l'embrasse.
Qu'est-ce que vous faites de beau, Véronique, à Saint-Jean-de-Luz, si on peut savoir ?
Là, je vais commencer mon week-end.
Bon.
C'est la meilleure des occupations.
C'est
bien,
ça,
aussi.
Ça, c'est pas mal. Joli programme. Ça va arriver à la maison rapidement. Hein. 74.
Ah, c'est super sympa. Je les offre tout de suite à mon mari.
Ah, voilà. Très bien. Vous avez fait des envieux à RTL, hein, je vous le dis. Que nous, on n'a pas eu droit à la compil.
Bah ouais, mais... peut-être une fois, je viendrai vous voir quand même. Maintenant que vous avez déménagé, tout ça.
Quand vous voulez.
Avec plaisir. On vous attend.
Ok. Et merci à tous.
On vous embrasse Véronique, très belle soirée, très beau week-end, profitez bien. Il y aura encore des super cadeaux vendredi prochain. Le vainqueur de l'info pour briller au dîner ?
Ma voisine de bureau, Céline.
C'est pas Cyprien.
C'est quoi, c'est vachement bien mon info sur les jeans.
Non, pas terrible.
Oh, bref. 75 jeans toutes les secondes.
Je croyais que c'était 73.
Ouais, 73.
De toute façon, l'histoire
du... près, hein.
Tout évolue, toute l'équipe sera là vendredi prochain. Ah non, pas toutes. Céline Landreau part en vacances.
Ah bah oui.
Ah bah
oui,
évidemment.
Vous allez où ?
Elle va quelque part, c'est déjà pas mal.
Tabernacle.
Le podcast va arriver. Le podcast va arriver. C'était le numéro 20 de On défait le monde. C'était un bonheur et c'est tous les vendredis soirs de 19h15 à 20.
Salut à tous. En janvier.